franceinter.fr.
La mer Méditerranée, une mer assiégée. Voici les mots de Martha Coll, première auteure de cette large étude sur l'état de la Méditerranée, publiée dans la revue Nature. Du plancton jusqu'aux prédateurs, on y découvre que tous les maillons de la chaîne alimentaire voient leur population chuter de manière vertigineuse depuis 50 ans. On en parle avec vous, Gilles Boeuf. Vous êtes en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste marin, Gilles Boeuf, professeur à l'université Pierre et Marie Curie. La Méditerranée, donc, une mer assiégée, pour reprendre cette expression. Qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement ?
En fait, que les pressions que l'humain aujourd'hui exerce sur cette mer qui est fermée, particulière, sans marée. Et vous savez, la mer Méditerranée, c'est un modèle magnifique du petit océan. Autant ce serait une erreur de la prendre comme un morceau d'océan Atlantique uniquement, autant elle a son histoire qui est liée à celle de l'océan Atlantique. Et depuis très longtemps, les pressions humaines sont très fortes aujourd'hui, bien sûr. Destruction des littoraux, pollution, surexploitation des stocks. 90% des stocks du Méditerranée sont surpêchés. C'est la mer la plus pêchée au monde. Pression touristique gigantesque. Et maintenant, bien sûr, des disséminations d'espèces, par le canal de Suez en particulier, et ce climat qui change qui va l'affecter aussi particulièrement.
Alors, vous l'avez dit, ça fait longtemps qu'on dit que la Méditerranée va mal. Là, il y a une étude de plus dans Nature. Qu'est-ce qu'elle apporte vraiment en plus par rapport à un débat qui est déjà bien connu?
Oui, en fait, elle fait une synthèse assez intéressante. Bien sûr qu'on savait que la Méditerranée, c'est pas parfait. Moi-même qui vis sur la mer Méditerranée, je me révolte quand on dit la mer Méditerranée est polluée partout. Ce n'est pas vrai. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une pression qui est de plus en plus importante. Et ce qui est intéressant dans le papier qui vient de sortir, c'est qu'ils ont fait des études sur de l'histoire. On a peu de données entre 1950 et 70. Ils en ont quand même trouvé quelques-unes. Ils ont compilé tout ce qui a été fait entre 70 et aujourd'hui. Effectivement, ça ne fait que conforter ce qu'on imaginait. Ça veut dire que qu'est-ce que voient aujourd'hui les usagers de la mer Méditerranée, les marins pêcheurs? Une diminution de la taille des petits poissons pélagiques, leur diminution importante, la diminution également des captures par pêche, des pollutions généralisées, dû à un commerce maritime absolument fantastique. Hein. On vient de doubler le canal de Suez, ça ne va pas arranger les choses. Et c'est la première visite touristique au monde, la mer Méditerranée aujourd'hui.
Et vous l'avez dit, les chercheurs ont découpé la mer par zone. Est-ce qu'on peut quand même trouver une zone où, en meilleur état que le reste?
On découvre dans ce papier que la mer ionienne est un petit peu moins connue. C'est un petit peu normal parce qu'il y a moins eu d'études. En fait, cette Méditerranée, depuis qu'on a ouvert le canal de Suez, est affectée différemment. La mer d'Alboran, hein, c'est la mer catalane, est une mer qui est en contact le plus direct, bien sûr, avec l'océan Atlantique, un renouvellement de la masse d'eau. C'est là qu'il y a le plus d'espèces de baleines, par exemple. Hein. Et pour aller vers l'est, plus c'est compliqué parce que les échanges sont un peu différents. Même s'il y a un des grands points d'échange de l'eau en mer Méditerranée, c'est situé du côté de Rhodes. Donc ces bassins sont diversement connus. La mer Adriatique est très particulière parce que aujourd'hui les espèces s'y réfugient. Ce changement climatique amène à des températures de surface qui sont supérieures, souvent des sursalinisations, des problèmes de manque d'oxygène. On se réunit en mer Adriatique pour aller vers le nord, qu'on ne trouve pas, mais on ne trouve pas la sortie, bien sûr. Hein. C'est très différent des faunes qui migrent dans l'océan Atlantique, des côtes africaines vers l'Europe. Aujourd'hui, on estime que un stock de poissons fait à peu près quelque chose comme 25 km vers le nord chaque année, et le plancton peut faire jusqu'à 45 km vers le nord chaque année. Ça, c'est beaucoup plus difficile à réaliser en mer Méditerranée.
Gilles Boeuf, les auteurs de cette étude montrent que les poissons, notamment les pélagiques, enregistrent une diminution de leur taille. Qu'est-ce qui explique là ce phénomène?
Alors, on l'explique pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en fait, s'ils sont plus petits, c'est qu'ils ont moins à manger. D'abord, ils diminuent dans les captures. Ce qu'on montre très bien, c'est que si vous surexploitez cette fraction des populations, les pélagiques, vous effondrez les oiseaux qui les mangent, vous effondrez les baleines qui les mangent, ou les mammifères marins, et puis les poissons de bout de chaîne, qui pourtant sont intéressants pour les pêcheurs, comme les thons et les espadons. Mais cette frange de la biodiversité qui disparaît fait que le zooplancton qui est mangé par ces animaux normalement explose, mange tout le phytoplancton. Et le phytoplancton est fondamental pour le nourrissage de ces espèces et surtout aussi, bien sûr, dans le changement climatique, puisque le phytoplancton est un élément important de la capacité de l'océan à fixer le gaz carbonique. Et on boucle la chaîne comme ça, avec les problèmes, bien sûr, d'acidification ensuite.
Mais est-ce qu'il faut vraiment oublier l'idée de sauver la mer Méditerranée telle qu'on la connaissait il y a 50 ans?
Moi, c'est clair que je me bats depuis longtemps, vous me connaissez, à votre émission, je me bats pour qu'on sauve quelque chose. Pas dans l'état pristine, effectivement. Tout ce qu'on vient de raconter est présent. Ce qu'il faut, c'est que, vous savez, il y a beaucoup d'aspects ici qu'on peut vraiment résoudre si on s'en donne la force politique. Regardez, il y a eu hier une réunion à Monaco, Ségolène Royal était à Monaco. Quelle solution pour la mer Méditerranée, en discussion avec le prince de Monaco? Il y a des gens qui se battent aujourd'hui. Aujourd'hui, régler, gérer la pêche, c'est parfaitement jouable. C'est un vrai débat politique et scientifique, mais on sait comment faire. ne plus laisser un seul émissaire terrestre arriver en Méditerranée non traité auparavant, c'est très important, gérer le commerce maritime international, faire que les bateaux soient moins contaminants, on vient en ce moment de les équiper de balises spécifiques pour ne pas avoir de collision avec les cétacés, avec les baleines par exemple, et puis surtout bien sûr aussi gérer la question de la pression touristique, tout ça c'est jouable. Le climat, je dis souvent, c'est trop tard, le climat, il va continuer à changer. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on limite les effets du climat. Et pour ça, en fait, il faut que tous, collectivement, on se mette d'accord, tous les pays riverains de la mer Méditerranée, pour faire quelque chose. Mais il faut s'y prendre vraiment très très vite maintenant, bien sûr. Hein. Il y a des mesures qui sont en cours.
Bon, donc tonalité pessimiste, mais il y a quand même encore des choses à faire, Gilles Boeuf.
J'espère bien.
Voilà, avec donc l'état des lieux de la Méditerranée, issu de cette étude publiée dans Nature. Merci beaucoup, Gilles Boeuf. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité. Lui ne risque pas la surpêche. C'est un poisson vivant dans des eaux souterraines qui a été observé en Allemagne. C'est une première à l'échelle du continent européen. Jusque-là, on pensait que les glaciations de la période pléistocène avaient empêché les poissons de coloniser ces eaux profondes. Mais en août 2015, un plongeur est tombé sur un poisson qu'il qualifiait lui-même de bizarre. Le spécimen avec des yeux très petits, presque rentré dans les globes oculaires, semble avoir perdu sa couleur. Il a aussi plusieurs barbillons qui partent de sa mâchoire, des caractéristiques propres aux poissons qui vivent dans les zones très sombres. L'étude suggère que ces poissons se seraient très vite adaptés à leur nouvel environnement en arrivant dans ces eaux souterraines il y a moins de 20 000 ans. Au Moyen-Âge, les Anglais se protégeaient contre les morts vivants. C'est en tous les cas ce que laissent supposer les squelettes retrouvés dans le Yorkshire. Ils présentent des coupures et des brûlures sur les crânes. Beaucoup ont été décapités ou ont vu leurs membres arrachés. Ce traitement de choc était censé dissuader les corps de revenir d'entre les morts. C'est en tout cas l'hypothèse qu'avancent les archéologues de l'université de Southampton. D'autres pistes avaient été envisagées, comme le cannibalisme ou le fait qu'il s'agisse d'ossements d'ennemis étrangers, mais plusieurs éléments les ont démentis. On sait en outre que la croyance que les morts reviennent hanter les vivants était très ancrée dans d'autres sociétés du nord de l'Europe. Et puis on a appris hier la disparition du physicien Pierre Binetruy, décédé à l'âge de 62 ans. Il était spécialiste de la cosmologie et des interactions fondamentales de l'univers. Professeur à l'université Paris Diderot, il était également directeur du Centre de cosmologie physique de Paris. Il avait notamment travaillé sur les ondes gravitationnelles, ces déformations de l'espace-temps découvertes en 2016. Allez, la vérité, nous en parlons dans un instant dans l'émission.